La consommation excessive de viande rouge augmenterait les risques de cancer, selon une étude de l'OMS.
Les vaches françaises, à elles seules, polluent autant que 15 millions de voitures par an.
Il faut beaucoup de terre pour nourrir la viande. Prendre de la terre pour la viande, c'est l'enlever pour les céréales.
La viande est-elle la source de tous les maux ? De la planète d'abord, puisque l'élevage industriel intensif conduit à la déforestation, qu'il est extrêmement énergivore, qui produit des tonnes de gaz à effet de serre, le tout dans la souffrance des bêtes élevées. Du corps ensuite, puisque la viande rouge notamment serait cancérigène, mauvaise pour le cœur, bref, totalement dispensable. Alors, est-ce qu'il faut mettre un terme complet à toute consommation de viande ? Est-ce qu'il existe un élevage raisonné ? Quel est l'impact de la viande sur notre santé et sur le monde ? Bonjour Éric Birlouez.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et sociologue, est-ce qu'il faut collectivement réduire notre consommation de viande ?
Dans les pays industrialisés, la France, Amérique du Nord, etc., la consommation de viande, d'une manière générale de protéines animales, devrait être diminuée. Aujourd'hui, on a à peu près, en tout cas c'est le cas en France et dans d'autres pays comme l'Amérique du Nord, 2/3 de notre ration alimentaire constituée de protéines animales pour 1/3 de protéines végétales. La recommandation, c'est d'arriver à un équilibre, 50-50. On est quand même dans cette tendance puisque la consommation de viande en France ne cesse de diminuer.
Mais on dit qu'à l'échelle mondiale, avec la surpopulation, au contraire, la demande va être de plus en plus grande et qu'il va falloir de plus en plus de terres d'élevage et donc qu'on est dans un cercle plutôt vicieux.
Il y a à la fois une nécessité de réduire sa consommation de viande dans les pays qui en consomment beaucoup, mais que dans d'autres régions du monde, il est inimaginable de penser qu'on pourrait ne pas consommer de viande. En Afrique subsaharienne, par
exemple, empêcher les gens
d'avoir un peu de viande, mais c'est absolument indispensable pour l'équilibre de la ration alimentaire. Et puis les animaux, c'est un capital sur pied. L'animal produit également un engrais, le fumier. On l'utilise également pour le trait. Donc l'élevage a son importance, sa nécessité. La même chose pour la viande. Donc voilà, c'est pas partout. Des endroits où il faudra diminuer la consommation de viande et d'autres endroits où elle mériterait d'être augmentée.
Quel est l'impact de l'élevage intensif sur la planète ? On dit qu'il est quand même globalement très négatif. Est-ce que c'est vrai ?
L'élevage, comme toute activité humaine de production d'ailleurs, a des impacts négatifs sur l'environnement. Mais là encore, il ne faut pas globaliser. On se rend bien compte qu'il y a différents types d'élevage. D'abord, il y a des élevages de porcs, des élevages de volailles, des élevages de ruminants, c'est-à-dire de vaches, de chèvres et de moutons. Et au sein d'un même type d'élevage, il y a différentes manières de le conduire, soit d'une manière très industrielle, entre guillemets, sans aucune considération de rien d'autre, sinon le profit, mais il y a aussi des modes d'élevage qui sont plus respectueux du bien-être animal. Donc on ne peut pas globaliser. Bien sûr, la déforestation de l'Amazonie est un énorme problème, mais si on regarde, par exemple, dans le cas de la France, on n'est pas dans cette situation-là.
Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres concrètement ? Est-ce qu'on sait quel est l'impact de l'élevage intensif sur la planète ? Je pense en termes de production de gaz à effet de serre, notamment.
Il y a eu, pour ce qu'il y ait de la production de gaz à effet de serre, donc l'impact sur le dérèglement climatique, un chiffre qui a été donné il y a déjà pas mal d'années par la FAO qui dit que...
Food and Drug Administration, organization.
Exactement, la production de gaz à effet de serre par l'élevage représente 14,5% de la totalité des gaz à effet de serre émis sur la planète. Et on compare ça habituellement avec le chiffre de 14% qui est les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et on dit, rendez-vous compte, l'élevage émet davantage de gaz à effet de serre que les transports. En réalité, on compare deux choses qui ne sont pas du tout comparables, c'est-à-dire on a des chiffres qui n'ont pas du tout été obtenus avec la même méthode de calcul. Donc la FAO a calculé 14,5% pour l'élevage, mais en prenant en compte tous les gaz à effet de serre, c'est-à-dire depuis la fabrication des aliments pour le bétail, des engrais, des produits phytosanitaires, l'activité des abattoirs, des usines de transformation, jusqu'à l'assiette du consommateur. Et dans le cas des transports, les 14%, c'est un calcul du GIEC qui ne prend en compte que les émissions de gaz à effet de serre par les véhicules en circulation. Et quand on refait les calculs en intégrant pas que les véhicules en circulation pour les transports, mais l'exploitation des mines, la fabrication des véhicules, eh bien dans le cas de la France, on a 19% pour l'agriculture, d'ailleurs dans son ensemble, et 31% pour les transports. Donc oui, l'élevage a une contribution aux émissions de gaz à effet de serre,
importante par
mais
ailleurs.
Il est erroné de dire que c'est plus que les transports.
On dit également que l'élevage est extrêmement énergivore et on compare notamment sur une ressource précieuse qui est celle de l'eau. On dit évidemment pour produire des protéines végétales, il faut un peu d'eau, mais pas énormément. Alors que dès qu'on compare ça à la production égale de protéines animales, la quantité d'eau est démultipliée.
Là encore, il y a un chiffre qui circule qui est totalement faux, qui est le chiffre de 15 000 litres d'eau par kilo de bœuf. Une partie, c'est l'eau que l'éleveur utilise pour abreuver ses animaux. Une autre partie, c'est l'eau qu'il va utiliser pour nettoyer ses installations. Et le reste, les scientifiques de l'INRA l'ont calculé, 95% des 15 000 litres d'eau, en fait, c'est l'eau de pluie qui tombe sur les sols, qui va servir au développement, bien évidemment, de l'herbe ou des cultures fourragères, mais cette eau de pluie, pour l'essentiel, elle repart dans l'atmosphère. Ce qu'ont calculé les scientifiques, c'est entre 550 et 700 litres d'eau. Donc c'est toujours plus que pour produire un kilo de blé ou de pommes de terre, mais 500, 700 litres d'eau, on est très loin des 15 000 litres d'eau.
Est-ce qu'il faut aujourd'hui vraiment faire la distinction, Éric Birloez, entre l'élevage intensif qui est vraiment nuisible, qu'il faut tendre à réduire? On peut parler aussi peut-être du bien-être animal, évidemment, des petits élevages, de la vache d'à côté, de mon paysan qui, elle, quand même, est toujours toute la journée au pré et moins dans des systèmes de souffrance et de productivisme.
En fait, je pense que parler de l'élevage intensif, c'est un oxymore, c'est une contradiction. C'est-à-dire que l'élevage, c'est quand même une relation entre l'éleveur et ses animaux. Donc à partir du moment où on fait non pas de l'élevage, mais de la production industrielle pour un maximum de profit d'une matière première alimentaire, évidemment, c'est une catastrophe pour l'environnement, pour le bien-être animal. En même temps, parler du petit élevage familial, ça n'a plus vraiment de sens, car l'agriculture a évolué, mais on peut avoir des types d'élevage qui sont familiaux, c'est plus forcément une famille avec quelques animaux comme autrefois, mais on peut avoir deux ou trois familles associées qui vont gérer un nombre raisonnable de vaches. Et là encore, ce que nous montre la science, des travaux ont été faits dans ce sens-là, c'est que le bien-être animal n'est pas forcément lié à petite taille, très petite taille des élevages ou grande taille des élevages. En fait, on a montré que ça n'avait pas vraiment grand-chose à voir, jusqu'à évidemment certaines limites.
Sauf les fermes usines, on voit bien que toutes les vidéos montrent que les animaux
sont très
mal traités.
Quand on passe de 10 animaux à 100 animaux ou 200 animaux, ça, c'est pas du tout un problème. Il y a dans les représentations du grand public l'idée que le bien-être animal passe forcément par le plein air. Parce que nous-mêmes, on se sent mieux quand on est en plein air. Et en fait, on a réalisé que les animaux qui ont été domestiqués depuis 10 000 ans, eh bien, si on les laisse en plein air, dans certains cas, c'est une catastrophe. Il y a des parasites, il y a des prédateurs.
La viande rouge a été classée par l'Organisation Mondiale de la Santé comme cancérigène probable.
Oui, alors il faut bien comprendre en fait ce que ça veut dire. En novembre 2015, le Centre International de Recherche contre le Cancer, c'est un organisme qui dépend de l'Organisation Mondiale de la Santé, a dit qu'il y avait une relation qui avait été mise en évidence entre une consommation élevée de viande, c'est-à-dire 100 grammes de viande rouge par jour, et l'augmentation du risque de 27%, pour être précis, du cancer colorectal. Donc ça ne veut pas dire la viande donne le cancer, ça veut juste dire une consommation excessive de viande rouge va augmenter un risque relatif d'un certain type de cancer. Bien sûr que l'on peut vivre en étant végétarien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une viande de qualité soit un poison. Et au contraire, je pense qu'il faut rappeler ce que nous disent les nutritionnistes, c'est que pour un homme omnivore, la diversité alimentaire intègre la viande, et la viande a des bénéfices, des protéines animales de haute qualité biologique, du fer en quantité et surtout très biodisponible, assimilable par l'organisme, du zinc, du sélénium, etc. En revanche, être végétalien, c'est-à-dire refuser tout produit animal, la viande, mais aussi les œufs, le lait, le miel également, eh bien, ça peut poser des problèmes. Si on est jeune, si on mange beaucoup, c'est-à-dire qu'on a un bon appétit parce qu'il faut manger beaucoup de légumes, de fruits, de céréales pour compenser, ça pose pas de problème. On prendra quand même des comprimés de vitamine B12 qu'on ne trouvera jamais dans les produits végétaux, mais c'est possible. Par contre, pour les nourrissons et les enfants, là, c'est absolument pas possible.
Merci beaucoup, Éric Birloez. Je rappelle que vous êtes ingénieur à Grenoble et sociologue.
Les idées claires par Nicolas Martin. À retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.